Merci à tous les Patreons du podcast, incluant les Patreons mécènes. Donc, merci beaucoup à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois pour votre support. Si vous souhaitez consulter des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez à la page CGKIN sur Facebook et peut-être sur son Patreon même. Sur ce, bonne écoute. De la course, nous sommes en direct de chez Nat Goyer. Merci Nathalie de nous avoir reçu chez toi puis d'avoir eu cette idée-là. Elle est un peu, je pense, dans une autre vie, tu es enseignante, mais tu aurais pu aussi être directrice d'une agence de rencontres. Parce que tu nous as matché. On le connaît, je connais déjà Jérémy Briand. On s'est déjà rencontrés dans différents contextes, mais entre autres, on était coéquipiers à McGill avant. Ouais. Mais c'est ça, c'est vrai, je savais que tu étais à Sainte-Julie,
ouais.
Donc qui est pas loin de Saint-Bruno. Et là, ça tombait bien parce qu'on allait tous se rencontrer ce matin. Et on en profite pour recevoir celui qui vient de faire la deuxième meilleure performance québécoise de tous les temps sur demi-marathon. Que ça, c'est un peu chiant parce que ça s'est fait un peu éclipsé, on va
le dire.
Parce que Thomas Fafard, dans la même course, lui a fait une 2:19, si je ne me trompe pas. Mais tu as fait une 3:59,
ouais.
Alors que l'ancien record était au-dessus d'une 4. C'est extrêmement rapide, une 3:59. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est tout juste au-dessus de 3 minutes 10 kilos.
Ouais, c'est 3-1.
3-1. 3-1 de moyenne.
Ouais.
Donc, c'est tenir ça, ouais. c'est le fun d'avoir une foule, j'aime ça. On a le monde qui applaudit. C'est comme on se croit dans Friends. C'est ça, là. Je vais essayer de faire une blague pas drôle tantôt, le monde va rire. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On espère que ce format va être bon pour nos auditeurs et ceux qui regardent ça en vidéo. Je vais te questionner comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision d'aller à Houston faire un demi-marathon? En tout cas, moi Mathieu, on n'avait pas vu que tu planifiais de le faire, c'est sûr, mais... Peut-être que tu ne t'avais pas annoncé sur Facebook, peu importe, là, mais on savait que Fafard y allait. Toi, c'est juste, plusieurs d'entre nous ont su le matin même. Ah, il a battu l'ancien record, il a fait en bas d'une 4. Donc, je voulais savoir un peu comment ça s'est arrivé, ce plan-là, d'aller faire un demi en bas d'une 4.
Ouais, non, mais tu sais, c'est drôle, t'en parles parce qu'avant que je parte. T'sais, quand je suis allé à Houston, il y avait Thomas, mais il y avait Alvaro, puis en tout cas, il y avait une couple d'autres Québécois qui étaient sur mon vol, mais en tout cas, moi, j'ai été malade dans les dernières années, souvent en avion, fait que je porte le masque maintenant quand je suis à l'aéroport.
Sans pas de chance.
Il y en a pas un qui savait que j'étais là la journée de la course. Alvaro, il dit qu'il le sait en regardant les résultats, mais c'est juste drôle, là. Mais non, je pense que je m'étais inscrit, mais la raison, en fait, c'est plus que j'avais fait le demi à Québec. J'avais intégré dans ma préparation, ça c'était en 2000, pas l'année dernière, l'année d'avant, 2022. En 2023, j'ai fait le demi à Montréal où je l'avais inclus dans ma préparation aussi en triathlon pour des courses. Puis,
t'avais fait quoi déjà? T'avais fait le 6K?
Ouais, à Québec, j'avais fait 1h07-10, mais à Québec, c'est un parcours... Moi, on m'avait invité à faire la course, mais je savais pas le parcours c'était quoi. Puis,
Québec, ouais. On parle de Lévis ou on parle du demi de Québec
dans le marathon de Québec? Tu montes au Château-Frontenac.
Non, il n'est pas rapide.
Non, c'est pas un parcours rapide. Mais ouais. Puis à Montréal, j'avais fait aussi parce qu'encore là, ça fitait bien dans l'horreur. Mais tu sais, c'est une distance que, aussitôt que je l'ai faite, j'ai aimé ça parce que c'est pas. Au début, j'appréhendais un peu la première fois que j'ai fait un demi, mais.
Ouais.
Mais de le faire une première fois, tu sais, c'est un type d'effort qui est différent de ce que je fais en triathlon, qui est différent de ce que tu fais quand tu fais un 5 km. Fait que moi, j'ai aimé la distance la première fois, puis je m'étais dit, tu sais, ça fait longtemps qu'après ça, je regarde des temps, je regarde des résultats, puis j'avais vu que, tu sais, des gars qui avaient fait 1h06-30 à Montréal, ils avaient fait déjà autour d'1h04 ailleurs. Ça, je l'avais vu. Fait que je m'étais dit, ah, tu sais, Houston, j'avais spoté que c'était un parcours rapide. Il y avait Vancouver aussi que je vais faire là, dans deux semaines.
Oui.
Que j'avais spoté que c'était rapide. Fait que je me suis dit, ah, ben, tu sais, je vais commencer la saison, je vais essayer des demi, voir, tu sais, avec le niveau de forme que j'ai, qu'est-ce que je suis capable de faire sur des parcours qui sont plus rapides. Là, c'est vraiment plus dans cette optique-là que je suis allé
à Houston. Juste se tester.
Ouais, c'est ça.
Puis ton premier demi, c'était à Québec. C'est ça, en 2000. Ouais, fait que c'est celui-là qui t'a donné vraiment un peu la piqûre ou le goût d'en faire d'autres.
Tu sais, moi, j'avais. C'était pendant l'automne, puis j'avais une préparation vraiment plus axée sur des Coupes du Monde, puis des championnats continentaux en triathlon.
Ouais.
Puis on m'avait invité à courir élite pour le demi à Québec. Puis dans la préparation, le timing était bon, fait que j'étais allé. Puis j'avais jamais fait de demi, mais tu sais, je pense que. Au niveau de la préparation, ça fitait bien. Puis je l'ai fait plus comme. Je me suis dit, je vais voir ce que ça va donner, je vais l'intégrer dans l'entraînement. Mais tu sais, là, t'arrives là, puis tu le fais, puis t'es. La semaine après, j'étais pas capable de faire quoi que ce soit.
Okay, okay.
C'était tellement coûteux que là, j'étais raqué.
Puis savais-tu un enjeu sur la suite de ton entraînement pour un championnat ou? Si on parle, c'était à l'automne 2022.
Ouais, ben, tu sais, j'avais fait ça, c'était fin septembre, je pense. Okay. Puis la course importante après était fin octobre. Fait que j'avais eu du temps après ça pour récupérer. Ouais.
Okay. Puis tu disais que t'allais voir ce que ça allait donner. Es-tu content du résultat pour
Houston? honnêtement, moi, j'étais surpris aussi. Là. Je pense que quand je regardais les temps, je regardais un peu ce que j'avais fait. Puis tout, pour moi, si je faisais 1h4:30, ça allait être déjà très bon. J'allais être très satisfait. Puis même, je visais plus 1h4:30 à Vancouver qu'à Houston.
Okay.
Mais c'est ça, j'ai été surpris. Puis surpris un peu comme tout le monde, je pense.
De faire en bas d'une 4 alors qu'il n'y avait aucun Québécois qui avait fait ça avant.
Ouais,
c'est sûr, ça en surprend plus d'un.
comment t'avais envisagé ta course? Tu sais, sur quel pace tu partais sur 1h4:30 puis finalement t'as accéléré?
Les fois où j'ai fait des demi avant, j'étais souvent tout seul ou avec une autre personne à Montréal, mais là c'est vraiment un contexte qui est complètement différent où t'as un groupe puis t'avais du monde partout autour. Fait qu'au début, tu sais, j'avais la perception de l'effort dans les premières minutes était bonne, puis je regardais pas trop la montre, mais je réalisais que ça allait quand même vite, mais tu sais, j'essayais de rester en contrôle puis tout. Puis après ça, si je te dirais que c'est graduellement pendant la course, tu vois les temps de passage, puis tu dis ok, ça va vite, puis après ça ça va vite, mais je suis quand même pas si mal que ça. Puis là, plus la course avance, plus ben tu sais, moi, pour moi en tout cas, les sensations s'amélioraient à mesure que la course avançait. Puis les temps de passage étaient encore rapides. Fait que là, en donné, c'est certain que. Tu sais, quand j'avais fait à Québec, c'est plus autour du 10e kilo que ça commençait à monter. Fait que là, tu sais, j'étais parti sur des bonnes bases quand même, mais tout prend le bord quand ça se met à monter. Là, je suis parti plus vite sur 5 kilos. Mais quand j'étais arrivé à 10 kilos, on n'avait pas perdu de temps. Fait que là, je savais qu'on était sur des bonnes bases. Puis que si je maintenais le temps qui allait être là, j'allais battre mon temps de beaucoup, mais c'est vraiment, je te disais, plus à 20 kilos là, que là, j'ai réalisé, ok, si je donne un petit coup, je vais peut-être être à faire en bas d'une heure 4.
Okay. c'est là que tu es allé chercher ta seconde.
Parce que tu as fait une 3:59, c'est ce qu'on appelle la clutch.
Ça, c'est le gun time, là, parce que moi, je courais à Houston pour courir élite, il faut vraiment que tu sois. Il faut que le comité organisateur
t'invite.
Même
Thomas l'était pas.
Ouais, c'est ça. Fait que nous, on partait un petit peu en arrière, là, fait que. Ça a pris 3 secondes avant qu'on passe la ligne.
Puis toi, tu t'es pas dit que tu allais essayer d'aller avec Fafard?
Ben, tu sais, lui, au début, les premiers, je pense, le premier kilo, je le voyais, il était à côté, mais après ça, lui, il a réussi à s'accrocher dans un groupe, puis après ça, tu sais, les groupes, ça s'est tiré, puis les groupes se sont un peu. Nous, il y avait une voiture, puis on voyait le gap par rapport au groupe d'en avant, puis plus ça allait, plus, tu sais, le gap était important. Puis après ça, moi, en réalité, c'est que pendant la course, moi, je me disais, à vitesse que ça va, je vais être capable de tenir.
C'est ça. Ça va déjà extrêmement vite. Ouais. T'es déjà peut-être à la pace pour faire un PB de 2-3 minutes.
C'est ça. Puis là, en rétrospective, tu regardes ça, puis tu dis, ben, peut-être que si je le refaisais, sachant ce que j'ai le cas de maintenir, peut-être que j'aurais essayé de m'accrocher au groupe en avant, mais. Mais tu sais, Thomas, je veux dire, c'est la première fois qu'il faisait un demi, puis je savais pas non plus dans quel niveau de forme il était. Fait que moi, je l'ai vu aller dans le groupe en avant, puis tu sais, je me suis dit, je vais peut-être le revoir, peut-être pas.
Ouais, je vais peut-être le revoir à cette vitesse-là, à courir avec Galen Rupp.
Tu sais jamais, là, ah, ouais. Il peut complètement exploser, mais ben non, oui. il a tenu. Puis, tu sais, je pense que tout le crédit, il revient. Là. Il était en forme, puis il a fait une belle course. Fait que, ouais, chapeau.
Ouais.
Ouais.
Mais toi aussi, tu as fait une très belle course. Les deux, vous avez des belles courses.
Ouais.
Disons, 20 kilos, là, tu te dis, ça va bien. Fait que là, tu pousses la machine un petit peu pour aller faire le sub in 4. Puis, raconte-nous un peu le dernier kilomètre, comment ça se passe dans ta tête. Puis, quand tu franchis le fil d'arrivée.
Mais tu sais, je pense que quand on arrivait à 10 kilos, on avait un plus gros groupe, puis un groupe qui, eux autres, ils tournaient à droite pour aller faire le marathon. Okay. Il y avait des gars là-dedans qui ont couru vite sur le marathon, ils ont fait autour de 2h10, puis après ça, nous autres, on tournait à gauche pour le demi, fait que là, c'est certain que... Puis jusqu'à ce point-là, on avait quand même un vent majoritairement de dos. Mm-hmm. Là, je savais que le stretch qui allait monter, c'était une longue ligne droite d'à peu près 5 kilos où là, on avait un bon vent de face. Fait que là, c'est certain que dans ce stretch de vent de face-là, j'essayais de rester en arrière des gars puis de pas trop aller en avant le moins possible. Puis quand on a tourné dans le dernier kilo, là, on avait plus un vent de dos. Fait que là, je savais que s'il y avait du temps à aller chercher, c'est là qu'il fallait aller chercher. Là. Fait que là, c'est certain que le dernier kilo, tu te poses pas trop de questions puis tu essaies de donner tout ce qui te reste, là.
Est-ce que le pack est resté pas mal intégral à partir du 10 jusqu'au 20?
Ça s'est réduit? On a rattrapé des gars qui étaient en avant puis qui avaient cassé. Puis on a aussi... Il y a peut-être 2-3 gars avec qui j'ai passé la majeure partie de la course. Puis il y en a d'autres, tu sais, des fois, tu les vois pas, puis là, tu les vois arriver, mais...
Mais tu as été quand même avec 2-3 personnes, là, vous avez été du début à la fin. Là,
Pas mal, En tout cas, entre autres.
Le dernier kilo, il est rentré en combien,
Tu sais, eux autres, ils parlent en 1000, les Américains. Ouais. Hein, fait que je sais que le dernier 1.1, on était sur un pace de 4,40 au 1000. Mais je sais pas combien ça donne exactement sur kilo.
C'est rapide, 3 minutes, 10 kilos. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, ça
Puis comment tu t'es senti quand t'as passé le fil d'arrivée en bas d'une 4?
Ah, David, tu sais, moi, j'étais satisfait, puis j'étais content. Puis, tu sais, c'est. Mais, tu sais, je pense que l'affaire aussi là-dedans, c'est qu'à un moment donné, tu viens que t'en fais tellement de courses que, tu sais, des fois, il y a des succès, des fois, il y a des échecs, puis t'apprends à vivre un peu, tu sais, je sais pas comment ils disent ça.
Ben, tu restes à l'intérieur.
Tu restes un peu, tu sais, c'est ça, tu t'apprends un peu à gérer, l'excitation est jamais trop intense, puis la déception est jamais trop, mais je pense que c'est après, tu sais, que là, j'ai vraiment... réalisé. Ben, tu sais, sur le coup, ben, je me rappelais d'avoir vu que le record c'était 1h04 quelque chose.
Pensais-tu que t'avais le record, sur le coup?
Non, parce que j'ai franchi la ligne, j'ai vu Thomas. Mais tu sais, je pense qu'après ça, c'est. Tu sais, sur le coup, je réalise que, ok, j'ai battu le record, mais c'est après, je pense que là, les jours après, où il y a beaucoup de messages qui ont rentré, tu sais, j'ai quand même eu des bonnes courses dans ma carrière en triathlon, mais jamais autant de. Je pense que j'ai pas eu de courses qui ont généré autant de
réactions.
Tu sais, même le lendemain, tu sais, il y a Pierre Léveillé qui m'a écrit parce que je pense que pour lui, c'était plus sentimental comme record. Là. Puis là, tu sais, moi, je savais pas en fait que Philippe Lariat était décédé. Fait que je l'ai appris par Pierre, c'était vraiment toute une histoire tragique. Là, fait
Perdre un coureur comme ça au top, pareil comme Émilie Mondard, c'est ça?
Ouais, Émilie Mondard qui décède d'un accident de la route, mais... Ouais, puis c'est drôle, ben un peu, ben pas, c'est pas drôle, mais tu sais, c'est... Lui, je pense que son accident, c'est arrivé à Montréal, mais moi, ma blonde reste à peu près à deux coins de rue de là où c'est arrivé. Fait que moi, quand je suis allé voir, lire un peu sur ce qui est arrivé, tu sais, j'ai vraiment réalisé, puis c'est vraiment... J'étais vraiment un peu sous le choc, là, quand j'ai appris un peu l'histoire, là, fait que... Puis après ça, tu sais, c'est...
Puis Thomas qui courait avec la camisole
Ça, c'était un beau clin d'œil, je pense. Puis tu sais, c'est ça que je disais à Pierre aussi quand il m'a écrit. C'est ça fait réaliser, là, il y a 35 ans, il a fait ce temps-là. Puis aujourd'hui, on a les souliers, on a la nutrition, on a l'entraînement qui a changé. Fait que c'est spécial parce que lui, je pense que ça te fait réaliser à quel point à cette époque-là, c'était exceptionnel comme performance.
Il faisait des choses avec pas grand-chose.
Ouais. Fait que...
Là, tu as commencé la saison, l'année, avec deux demi. Tu vas aller faire le first half demi à Vancouver dans deux semaines. C'est la première fois que tu commences une année, parce que toi, tu es en triathlon actuellement. C'est-tu la première... Dans le fond, là, c'est essentiellement de la course. C'est la première fois que tu commences une année comme ça. Ça annonce quoi pour la suite de ton année?
Je te dirais que chaque début de saison est différent. Si je remonte dans les 5 ou 6 dernières années, à chaque année, pour moi, le contexte est tout le temps un peu différent. Parce que, comme François il dit, on a déjà été coéquipé à McGill. Quand on était à McGill, il y avait la piste intérieure l'hiver. Fait que... Ça prenait une grosse partie de l'hiver, fait que c'est certain que une fois que j'étais plus à McGill et j'étais capable de mettre de côté la piste intérieure, ben là ça me permettait de me concentrer sur des courses en début de saison en triathlon, mais aussi dans les dernières années j'ai eu des blessures, c'est pas rare que le début de saison est très différent d'une année à l'autre. Je pense qu'il y a il y a 3 ans j'avais une fâchée de plantaire, j'étais pas capable de. J'étais pas capable de faire beaucoup de courses, fait que j'étais allé faire une course en Floride au mois de mars, puis on avait vu ce que ça avait, tu sais, j'étais allé là sans trop d'attente, puis après ça, dans les 2 dernières années, il y a eu des courses intérieures, là, les Arena Games, que là, c'était un nouveau format qui était proposé, tu sais, par la Fédération internationale de triathlon, mais je pense pas que cette année ça va, je sais,
il y en aura pas cette année?
En tout cas, ils reviennent pas à Montréal, ça c'est sûr. Okay. L'année passée, ils étaient venus à Montréal, fait que ça m'avait permis de commencer ma saison sur, tu sais, ici.
Oui, puis t'avais voyagé aussi pour aller faire.
J'étais allé faire à Londres. Fait que tu sais, il y a ça, mais là cette année, il n'y a pas vraiment eu de nouveau là-dessus, fait que c'est ça, tu sais, je pense que ça c'est différent, mais pour la suite, tu sais, c'est certain que là je vais probablement. Si je vais essayer de faire un demi-Ironman pendant l'été, puis probablement faire des coupes continentales, des coupes du monde en triathlon, mais le calendrier reste encore un peu à définir au niveau des priorités pour les courses pendant l'été.
Là. Est-ce que tu as envie de transitionner un peu plus vers la route? Tu vois en tout cas qu'il y a plus de reconnaissance, du moins, là, en termes de... c'est sûr, tu as fait de grosses perfs, mais j'ai l'impression, en général, il y a beaucoup plus de reconnaissance pour... En tout cas, du moins de moi, ce que je vois sur les performances de route, surtout sur demi-marathon, qu'en triathlon. Je sais pas si c'est toi ta perception.
Je pense que la course à pied, on le voit tout de suite que c'est une communauté qui est quand même serrée. En triathlon...
On le voit ici, justement, une belle gang qui se rencontre au mois ou 2 mois.
Mais je pense aussi, puis ce que tu t'as dit à l'émission quand tu étais venu, c'est qu'en course à pied, il y a toujours un temps, c'est facile de comparer les temps, surtout course sur route. Mais en triathlon... Tu me l'as dit, on peut pas comparer les temps. Fait que c'est un peu difficile. Y a-tu battu un record sur telle épreuve? C'est pas comme ça. Fait que c'est plus difficile de se rendre compte.
Puis il y a plus de monde qui court que du monde qui font du triathlon. C'est plus accessible comme sport. Fait que les gens.
Mais je pense qu'au niveau, professionnel, définitivement, triathlon longue distance, il y a de l'argent à faire là. Parce que je pense qu'il y a peut-être même plus d'argent à faire là qu'en course à pied, mais à un moment donné aussi, tu fais pas juste ça pour l'argent.
Non, parce que ça coûte cher aussi pour du tri.
Puis c'est un circuit où de plus en plus, il faut que tu sois là-dedans à temps plein. Sinon, tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu. Là, parce qu'il y a des gros partenaires financiers qui sont rentrés dans le portrait sur la longue distance en triathlon. Tout ce qui est les Émirats arabes unis, puis Bahreïn, puis il y a une équipe.
Finance beaucoup d'équipes.
Finance des équipes, finance des événements, finance des grosses bourses. Il y a aussi le ils appellent ça le PTO, le Professional Triathlon Organization, où là c'est vraiment un circuit, mais avec des grosses bourses, mais c'est un circuit très select. Tu as comme 15 ou 16 gars. Puis c'est...
Puis il y a des femmes aussi.
C'est goffé, mais tu sais, la personne qui finit dernier, il va faire 25 000 US, tu sais, mettons.
C'est fun d'être invité dans cette circuit-là. On va y aller.
Le gars qui gagne, il fait 250 000 US, tu sais. Fait que c'est des grosses bourses que, tu sais, je sais pas si t'as l'équivalent. Fait probablement que t'as un équivalent en course à pied si tu bats le record du monde, mais là, on n'est pas là. C'est ça. Fait que il y a des grosses bourses, mais c'est ça pour le PTO, pour faire partie de l'organisation, il faut que tu fasses un paquet de d'événements à gauche, à droite.
Dans le fond, tu te consacres à 100% à ça. Ouais, t'as pas un autre job. Puis tu t'entraînes.
Non, c'est ça.
Toi, tu travailles à l'INS, si je me trompe pas.
Ouais, puis je fais mon doctorat aussi. Ouais, fait que, tu sais, j'ai pas mal d'affaires dans mon assiette à gauche, à droite. Fait que.
Puis en plus, on sait, le triathlon, c'est débile, là, l'entraînement que ça prend.
C'est,
c'est débile. Toi, t'es habitué, c'est débile.
Ouais, puis même tu le dis à l'INS, là, des fois on regarde, on parle à des préparateurs physiques ou des entraîneurs qui travaillent dans d'autres sports, puis tu sais, ils regardent l'horreur de ceux qui font du triathlon, puis ils comprennent pas.
Ah, c'est ça, les où est-ce qu'ils trouvent du temps, ouais. Est-ce qu'il y a une vie?
Non, mais tu sais, ils comprennent, ils disent pas ce qu'ils ont une vie, mais tu sais, ils comprennent, tu sais, mettons un préparateur physique, souvent, tu vas essayer de voir où est-ce que je peux placer ta séance de muscu pour que ce soit optimal.
Ah t'sais. Ouais, puis là, ils sont comme, mais c'est pas optimal,
c'est possible. Là, ils regardent l'horaire, puis ils disent, où est-ce que je place ça?
T'sais. Ouais, c'est qu'ils récupèrent là-dedans, puis somehow, vous réussissez. T'sais.
Ouais, mais tu sais, il y en a qui réussissent, il y en a qui se blessent. Ouais. Ouais, ça fait partie de...
Toi, ça va bien les dernières années quand même?
Ouais, les dernières années, ça a bien été de ce côté-là. Tu sais, je pense que la dernière fois que j'ai eu une blessure, ça date d'il y a peut-être 3 ans.
C'est bon, ça. Ouais. Dans le groupe ici, je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent être qui aimeraient ça avoir ce nombre de d'années sans blessure.
La dernière fois, je pense que c'était une fâchée de plantaire là, qui...
On a des réactions pour ceux qui on peut pas le voir, mais il y en a qui ont des petites réactions à cette affirmation. En ce moment, t'es pas encore sûr si tu vas aller plus sur route, si tu vas ça va dépendre des résultats, je suppose.
Ouais, tu sais, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu aussi de tu sais, j'en discutais un peu avec Mathieu aussi. Tu sais, c'est certain que moi, dans les dernières années, mon objectif, c'était vraiment de me classer pour les Jeux. Mais la saison dernière, en tout cas, ça a été plus compliqué parce que... pour plusieurs raisons, là, mais entre autres, tu sais, ma préparation avec la COVID. J'ai eu la COVID en décembre, il y a un an.
Ouais.
Ça a un peu compliqué ma préparation.
Un peu, ouais.
Parce qu'en décembre ou en janvier, c'est là que tu fais un peu ta base pour la saison. Fait que ça a compliqué un peu la préparation de la saison. Puis après ça, quand je commençais à mieux aller, à retrouver des... Parce que j'ai eu la COVID la première fois, mais c'était pas une COVID. Tu sais, c'est des symptômes qui se sont quand même étalés sur une longue durée.
Okay. Et t'as eu de la longue un peu?
Je suis pas médecin non plus. Fait que
ça a laissé des séquelles.
Les symptômes de fatigue qui ont duré longtemps. Puis quand je commençais à me sentir mieux, j'ai rattrapé la COVID en juin. Mais sur le coup, ça tombait. Le timing était juste vraiment pas bon. Parce que là, je m'en allais faire une série mondiale à Montréal. En tout cas, il y avait un enchaînement de courses plus clé. Ça m'a un peu pénalisé sur les courses que je pouvais faire en milieu de saison, puis après ça, ça a compliqué un peu tout le reste. Ça l'a joué beaucoup dans la balance, mais ça fait en sorte que moi, quand la première année du cycle de qualification olympique s'est terminée, j'étais quand même relativement bien positionné. J'étais à peu près, je pense, 50e ou 55e au classement olympique, puis pour avoir une chance de classer 3 de sort pour le Canada, idéalement, il aurait fallu qu'on soit 3 gars dans le top 30. Okay. Fait que mon objectif dans la deuxième année, c'était vraiment d'avoir une bonne saison puis de rentrer dans le top 30. Puis avec tout ce qui s'est passé, j'ai même pas avancé dans le classement, j'ai reculé. Fait que là, à ce stade-ci, c'est impossible honnêtement là, qu'il y ait 3 gars. Là. Qu'il y ait 3 gars qui rentrent dans le top 30, ça n'arrivera pas. Puis après ça... T'sais, la sélection à l'interne de qui vont être les deux gars pour les deux dossards qui restent, il y a beaucoup de politique. Il y en a un qui a probablement sa place assurée, puis à moins que Charles Paquette réussisse à faire un top 10 dans les deux courses ciblées, là, ça va être un choix discrétionnaire, puis ça donne ce que ça donne. Je pense pas que dans un choix discrétionnaire, j'ai des chances réalistes de me classer pour les Jeux. Là.
Ça, ces deux courses ciblées-là, ça va être des courses au printemps?
C'est deux séries mondiales. Là. Il y en a une à Yokohama, il y en a une en Italie. Puis lui, s'il veut avoir sa sélection automatique, ça va être un top 10. Okay. Parce qu'il a déjà fait un top 10 à Montréal l'été passé.
Oui? Okay.
Ouais.
Qu'on le réalise pas, on se dit « Ah, Montréal, c'est petit, mais non, c'est une grosse course. »
C'est le plus haut niveau là, à Montréal. fait que c'est ça, je pense que la période de qualif là, pour les Jeux finie en Italie... avec la dernière course, il y a deux chances, puis lui, il faut qu'il fasse un top 10, puis sinon, après ça, la Fédé, ils peuvent choisir, là, c'est un peu...
C'est politique.
Ouais, c'est politique.
Okay.
Ouais.
Puis, fait que là, dans le fond, pour toi, tu es quasi sûr pas d'Olympique cette année. Ouais. Tu vas continuer le triathlon. Est-ce que tu te permets de penser dans 4 ans et demi, 2028, ou c'est dans longtemps?
Ben, tu sais, à ce stade-ci, puis tu sais, on dit que c'est politique, mais moi, personnellement, il y avait l'année passée, il y avait les Jeux Paname, tu sais, puis ça faisait partie des courses que j'aurais aimé faire, mais que, encore là, j'ai l'impression que je me suis fait un peu avoir dans le processus de sélection, puis ça, tu sais, je suis capable de le dire ouvertement, puis ça, je l'ai dit à la FED, ah ouais. Que la façon qu'ils ont choisi leur... Je pouvais rien dire sur la façon qu'ils ont fait leur sélection, parce que c'était écrit tel quel, mais quand t'as un système qui est supposé...
être juste.
Non, mais qui est supposé, tu sais, ranker, tu veux savoir c'est qui le meilleur athlète, etc., puis que tu te retrouves à avoir quelqu'un que tu bats régulièrement qui est, eux, dans leur ranking ou dans leur système.
Dans leur ranking à eux.
Dans le système qui est supposé ranker les athlètes qui font ressortir les meilleurs. Okay. T'as quelqu'un que tu bats tout le temps qui sort en avant.
Il y a peut-être un problème dans le système.
Je pense que tu te poses des questions sur la façon que le système est fait. Là. Okay. Moi, ça, c'est certain qu'après ça, tu te dis, ben, tu sais, je me fais avoir là pour les Jeux Paname. Est-ce que je vais me faire avoir encore aux Jeux Olympiques?
Est-ce que ça me tente de continuer?
Fait que, tu sais, dans l'état actuel des choses, avec la direction qui est là, je sais pas. Je pense que quand moi, ça, c'est arrivé, je me suis dit, là, faut que je prenne un pas de recul puis je fasse des choses que j'aime. Puis c'est pour ça, entre autres, que j'ai fait les demi. Puis c'est pour ça que je me mets pas non plus d'objectif majeur cette saison-ci. C'est plus de voir ce que... Tu sais, je veux avoir du fun, je veux faire des choses qui me tentent, puis dans 4 ans, si la porte est encore ouverte, ben pourquoi pas, mais je suis pas rendu là non plus dans ma réflexion.
Puis la fameuse question, le marathon,
ouais, ben,
c'est quelque chose auquel tu penses?
C'est quelque chose auquel je pensais pas il y a quelques mois, mettons, mais tu sais, j'ai toujours voulu faire un marathon.
Ah ouais?
Ben, tu sais, mon père, quand j'étais jeune, il faisait des marathons.
OK.
Fait que c'est certain que moi, j'ai toujours regardé le marathon. Je me suis toujours dit, je vais en faire un jour.
OK. Mais je sais quand que ça donne.
Ouais, tu sais, quand ça donne. Puis, tu sais, j'avais jamais pensé non plus à ce que ça va être un marathon que je vais faire de façon compétitive ou si je vais juste le faire pour le faire, tu sais. Mais là, c'est certain qu'avec le... Puis, tu sais, c'est comme je dis aussi, le demi, c'est une distance que j'aime faire. Fait que je me dis, pourquoi pas le marathon? Ben, là, c'est certain que...
C'est moins le fun, mais ben ça dépend, ben, non, ça dépend, ça. Mais c'est...
Mais je pense que l'affaire avec le demi, c'est qu'avec le type d'entraînement qu'on fait, tu peux être bon sur 10 kilos, puis le tu fais pousser ta luck un peu, puis faire un bon demi. Ouais. Après ça, sur le marathon, si je m'attaque au marathon, ça me prend vraiment une préparation spécifique.
Faut que tu t'entraînes pas.
Ouais.
Mais t'es un triathlète, t'es une machine d'endurance, fait que ça peut jouer à ton avantage. On regarde... Simon Leblanc,
sans entraînement,
sans montre, c'est ça. Un peu tout croche, c'est ça, c'est toi tu vises plus vite si tu vas faire un marathon, mais ça montre un peu ce que ça peut donner. Les triathlètes peuvent faire des bons marathons.
La porte est ouverte. Je pense que c'est certain que j'y pense plus que j'y pensais, puis c'est définitivement quelque chose qui m'intéresserait. Là. On va voir.
Tu vas voir la décision n'est pas prise, à savoir maintenant si ce serait l'automne prochain.
Ben non, mais tu sais, l'automne peut-être. Puis honnêtement, je pense que je vais vraiment y penser plus dans les prochaines semaines. Puis si je m'enligne vers ça, il va falloir que, comme je dis, j'ai une préparation plus spécifique.
Ben, dans le fond, c'est une décision à prendre, parce que si tu vas faire un marathon à l'automne, il y a des compétitions de tri que tu ne participes pas, là, j'imagine.
Ou je vais y participer, même pas dans la même optique.
On fait ce combo-là en entraînement quasiment.
Mais tu sais, c'est ça, on va voir. Là, je pense que c'est quelque chose auquel je pensais moins, mais que là, peut-être que je commence à plus y penser. Puis je vais, comme je dis, c'est que si je me lance là-dedans, ça me prend une préparation spécifique. C'est clair. C'est tant qu'à le faire, je veux le faire comme il faut. Puis j'ai vu passer des trucs comme... Thomas aussi, il veut s'attaquer au marathon, puis je pense qu'il parlait même dans la presse de s'y attaquer d'ici le mois de mai, mais je pense
non, que... Non, ça va être à l'automne. Ça, c'est des informations que tu as lues dans les journaux.
Ouais.
Faut se fier au monde de la course. C'est là que les vrais...
Ils en ont discuté, Thomas et Félix-Antoine, ils en ont discuté, ils ont vérifié, mais finalement, c'était trop ambitieux. Ça, dans le fond, c'était avec l'optique de peut-être pouvoir se classer pour pour Paris, mais c'est beaucoup, beaucoup trop ambitieux.
Ouais. Fait que la seule affaire, c'est Je te conseille de ne pas prendre le même marathon que lui, juste pour pas qu'il y ait la même histoire qui se passe. Mais en même temps, ça pourrait faire un bon duel. Ça serait très intéressant. Je pense qu'il y aurait tous les coureurs et coureuses québécoises suivraient cette course pour voir si c'est là. Ça doublerait les chances de faire tomber le record.
En tout cas, on verra.
Tu ferais-tu genre Berlin ou tu ferais-tu de quoi plus.
Mais tu sais, Berlin, c'est des grosses courses là, pour rentrer là. Tu veux courir dans des bonnes conditions aussi. Je sais même pas comment ça marche pour courir élite là, dans ces genres de ce genre
tu
de
pourrais, courses. Tu pourrais. Mais tu aurais peut-être pas toutes les bouteilles, tout ça. Ah, mais tu pourrais avoir ton entrée puis ton spot. Mais...
Tu sais, je sais que. Tu sais, Maxime Lopez, il a fait Valence. Ça, c'en est un qui est rapide habituellement.
Ouais.
Tu sais, c'est certain que je viserais un parcours plus rapide. Mais après ça, lequel, ça, j'ai pas encore. Pas encore pensé à ça. Ouais. J'ai pas encore pris le temps non plus d'analyser puis de décortiquer. Puis rendu là, tu sais, je vais probablement comme parler à des gens qui connaissent ça puis qui vont être capables de me conseiller là-dedans aussi.
Est-ce qu'on a des questions du public? Est-ce qu'il y avait des questions que vous vouliez qui vous aviez sur le bout de la langue? Sinon, on va continuer encore un petit peu puis vous pouvez y penser.
On avait une question d'Anto que Pat mentionnait. T'es coaché par qui? T'es-tu un coach actuellement?
Ouais. Je vais juste répéter. T'es coaché par qui? C'est qui ton coach?
Ben moi, ça fait longtemps que mon coach, c'est Luc Morin.
Là, oui, que j'ai croisé hier au Team Challenge.
Ouais, ben tu sais qu'il a coaché à McGill. Ouais. Là, il coach Saint-Jean-sur-Richelieu aussi.
Ouais.
Puis... mais tu sais, je pense que je l'avais dit la dernière fois quand j'avais parlé, dans la première fois qu'on s'était parlé, c'est. Tu sais, aussi, là, moi, je fais mon doctorat, mais un peu là-dedans, faire en sciences du sport. Fait que c'est certain que ma relation avec Luc, elle a évolué au fil des ans. Tu sais, ça a commencé avec quelque chose qui était plus, tu sais, dirigé, puis que Luc avait beaucoup de contrôle vers une relation où Luc me mentore beaucoup, mais que moi aussi, je prends beaucoup de décisions dans le processus. Fait que c'était un peu rendu du 50-50, tu sais. Fait que t'sais, j'ai mon rôle à jouer aussi dans ce que je fais, dans les décisions qu'on prend, dans les courses qu'on vise, dans la façon qu'on répartit l'intensité, le volume, ces affaires-là. Puis t'sais, je valide avec Luc qui m'aide un peu là-dedans. Mais c'est une rétroaction, mais c'est vraiment. T'sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette relation-là, coach-athlète. Là.
Non, ben il faut que tu aies un certain niveau de connaissance justement pour ça. Mais
un niveau d'expérience aussi. Tu sais, à un moment donné aussi, quand tu arrives dans une course, que ça marche pour toi. Puis que si tu fais ça, tu vas être correct le lendemain versus. Tu sais, je pense qu'il y en a des athlètes plus jeunes que je vois qu'ils ont besoin d'avoir.
Plus d'encadrement.
L'encadrement. Puis si le coach n'est pas là pour leur dire, faut que tu fasses ça, ils se mettent à paniquer, tu sais.
Ouais.
Je pense que c'est John Lofranco. Il avait fait venir un gars dans une conférence peut-être l'année passée ou l'année d'avant. C'est un auteur, là, c'est un ancien coureur, c'est Do Hard Things. Je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais il a écrit un livre qui s'appelle Do Hard Things. Puis il encourage justement les gens à avoir un peu cette. Tu sais, les coachs qui ont encore des athlètes, à leur laisser un peu. Cette zone-là où graduellement il faut qu'ils décident un peu puis qu'il y ait un peu d'indépendance dans ce qu'ils font.
Certaine autonomie.
T'sais, au lieu de dire tu vas faire 12 répétitions, ben tu dis, regarde, tu vas en faire en 10 puis 14, puis décide quand est-ce que t'en as assez. Puis graduellement, l'athlète devient de plus en plus indépendant, puis ça lui donne confiance, puis il est capable un peu de voler de ses propres ailes. Puis tu sais, quand t'arrives sur la route, puis que t'es avant une course, puis t'as pas besoin. Tu sais, ton coach, il peut être là, tu peux l'appeler, tu peux lui demander pour ma préparation ou ma gestion de la course, c'est tout ça que je dois faire, mais à un moment donné aussi, si t'as pas de réseau, t'es pas capable de le rejoindre ou qu'il y a quelque chose qui fait que t'es pas capable de le rejoindre, si ta course n'est pas finie non plus, t'es capable de retomber sur tes pieds, ça je pense que c'est important.
Ou comme un entraînement, le coach dit fais-moi en 12, puis t'es pas capable d'en faire 12, là, c'est un entraînement, t'es démoli parce que t'as pas fait un bon entraînement.
Ouais, ouais.
Mais s'il t'avait dit en 10 et 14, puis t'arrêtes à 10 parce que tu vas sans même, t'es pas démoli après cet entraînement-là, puis t'es.
Non, puis tu comprends. Tu comprends aussi que un entraînement, c'est pas la fin du monde. Puis des fois, moi je me rappelle, le plus jeune, j'avais un entraînement qui était prescrit, puis là, il neigeait, puis j'allais dehors, puis j'étais pas capable de maintenir le rythme qu'il fallait que je maintienne. Puis là, j'étais fâché, ou j'étais déçu, ou ça me stressait. Puis aujourd'hui, tu sais, garde de mettre ça en perspective, puis il dit, ben là, quand il neige, peut-être mieux que je le fasse demain, ou tu y vas, puis tu le fais à l'effort perçu. Ou tu sais, il y a un paquet de façons de. d'adapter, puis ça, ben, tu viens à être capable de le faire avec l'expérience, mais avec aussi, tu sais, je pense que j'ai été chanceux d'avoir Luc parce qu'il m'a permis justement de, d'aller chercher cette autonomie-là, puis cette indépendance-là. Que... Mm. Ouais, ouais.
Cool. Puis ton doctorat, il se termine quand?
Ben là, j'ai juste fait un an, fait que.
Ah, encore un petit bout.
Ouais, au moins 3 ans, tu sais.
Puis qu'est-ce que tu vois après comme carrière professionnelle?
Ben, c'est assez ouvert, là, puis je te dirais que c'est souvent, puis ça c'est classique, c'est que la vision, c'est qu'un doctorat s'amène à un poste dans le milieu académique, mais ça c'est historiquement c'était ça, mais tu sais, tu vois que de plus en plus, ils forment plus de personnes au doctorat qu'il y a de postes dans le milieu académique, fait que là okay. Justement, on a eu une formation à l'automne qui nous montrait qu'il y a d'autres débouchés que dans le milieu académique, fait que là, je pense qu'on est quand même chanceux dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal d'avoir accès à ce genre de formation-là. Puis ça nous fait voir qu'il y a d'autres débouchés, qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Fait que,
comme quoi?
Ben, tu sais, parce que quand tu te retrouves quand tu es prof à l'université, initialement, ce qui t'amène là, c'est ton intérêt pour la recherche, en majeure partie, mais tu te retrouves à faire un paquet de choses qui sont pas de la recherche.
Oui, l'enseignement,
des tâches administratives. Beaucoup de tâches administratives, beaucoup de gestion, tu sais, il y en a qui sont directeurs de programme, etc. Fait que tu sais, il y a des options où tu peux aller, travailler dans des compagnies pharmaceutiques ou dans des centres de recherche où là tu vas vraiment plus faire de la recherche ou tu sais il y a un paquet de débouchés que moi je connaissais pas là, puis ou tu sais il y en a qui aiment vraiment enseigner mais ils aiment pas l'aspect recherche, ouais. Qui s'en vont au collégial puis c'est une dynamique qui est différente, mais puis au collégial aussi tu as des centres de recherche affiliés au collégial où tu n'enseigneras pas, tu vas faire juste de la recherche, fait que tu sais c'est un peu de d'être conscient des différentes options, puis ça ben je commence à voir un peu c'est quoi le portrait, fait que c'est certain que si tu m'aurais posé la question il y a un an je t'aurais dit milieu académique, mais là je vois qu'il y a autre chose, puis tu sais, j'ai pas encore vraiment arrêté ma décision.
Non, ben là, t'as le temps de passer aussi puis voir les choses.
Ouais. Ouais.
Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, Nat!
Quand tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes au CEPSAM, est-ce que tu t'entraînes avec du monde? Parce que là, il n'y a pas grand monde qui peut courir à ton rythme.
Ouais, donc la question avec qui et où t'entraînes-tu, étant donné que t'as un rythme assez élevé?
ouais, mais tu sais, je pense que mon rythme est élevé quand je fais mes entraînements spécifiques, mais tu sais, quand je fais mes jogs, je peux facilement, tu sais, même des entraînements spécifiques, je peux courir avec une équipe, puis j'ai même couru longtemps avec François, puis je pourrais encore courir avec François, là, mais...
Tu serais peut-être surpris, malheureusement.
Mais non,
trop vite dans ce jog.
mais tu sais, là, l'été, je cours souvent sur mon Saint-Bruno. Quand j'ai je m'entraîne beaucoup au niveau, préparation physique, musculation, ces affaires-là, au stade olympique, à l'INS, à l'Institut national du sport. Fait que, il y a des entraînements spécifiques que je fais sur tapis, là aussi, puis ça, c'est plus par préférence personnelle. Des fois, j'ai réalisé dans le passé, surtout l'hiver, que faire beaucoup de pistes à l'intérieur, même à l'extérieur, ça, moi, ça amuse beaucoup, puis ça fait souvent que je me blesse. Fait que des fois, j'en fais sur le tapis. Des fois, j'ai l'option aussi. Au Sepsum, dans le labo, on a vraiment un bon tapis. Fait que des fois, je le fais au Sepsum. Je m'arrange pour qu'il y ait quelqu'un dans le labo avec moi. Là, pour qu'il m'arrive quoi que ce soit. Là.
C'est un quoi votre tapis?
Ben, c'est un Woodway, mais tu sais, à l'INS, il y a des Woodway. À l'INS, ils ont beaucoup de Woodway. Là. Ils en ont 7 ou 8.
Ça, c'est des tapis à 10 000 piastres.
Ouais, mais tu sais, à l'INS, c'est des Woodway, je te dirais plus. T'as un penchant plus commercial de Woodway, puis il monte quand même à 24 km/h. Fait que tu peux quand même monter à 2,30 du kilo. Mais celui qu'on a dans le labo à l'université, c'est un Woodway pour de la recherche. Fait que il monte à 28, puis...
Tabard!
tu peux prendre la descente aussi, je pense.
Ouais, tu peux. Tu sais, l'inclinaison, tu peux la remonter, mais tu peux aussi la mettre négative. Fait que là, tu peux faire du travail excentrique. 28.
Hey, tu sais, je sais qu'il y a des auditeurs en ce moment qui écoutent ça, qui salivent, là, 20 km, alors qu'ils se rapprochent jamais de ça. Mais...
Tu l'as pas dans le checker.
Non, c'est le laboratoire. Non, David, je pense qu'il va à... Il travaille avec, Toguri, là. Ça, c'est plus dans l'ouest de l'île. Moi, c'est le lab au Sepsum, là, de physiologie de l'exercice.
Je pense qu'il est au stade olympique, puis il fait fait des
fesses. Son titre officiel, je pense, c'est conseiller en recherche et innovation.
Oui, c'est ça, oui.
Fait que il travaille justement. Il fait un peu de recherche au stade. Il y a des woodway, comme tu dis, au stade qui ont une inclinaison négative. Puis il y a aussi un tapis de labo au stade, là, que c'est un genre de tapis vert là, que tu peux même faire du vélo là-dessus. Là. Il monte à des vitesses de fou. Mais personnellement, je pense que j'aime mieux courir sur le woodway que sur le tapis vert. Là. J'ai essayé là, un moment donné, puis c'est. Il est comme un peu trop large. Il y a comme.
Trop large? Ouais. Ça se peut. Ok.
Puis il y a comme le mur en avant. Au moins, quand tu cours sur les tapis dans le gym, t'as une vitre, puis là, tu vois un peu ce qui se passe autour. C'est un peu moins plat.
Okay. Ouais,
que
d'en regarder
un mur.
Ouais. C'est sûr, un mur, c'est un peu démoralisant. Ouais. Les gros murs de béton de l'INS.
Ouais, c'est ça.
De bunker.
Ouais.
Tu fais-tu un peu de natation, un peu de vélo quand même cet hiver?
Ouais. Tu sais, là, puis là, je garde la forme. Tu sais, c'est peut-être pas aussi spécifique que si la saison commençait demain matin. C'est plus du maintien que je fais, mais la forme est quand même pas mauvaise en vélo puis à la natation. Fait que je continue à nager. Il y a la piscine à l'ouvert au Sepsum, fait que ça, je suis capable d'y aller quand j'étais à l'université, sinon je vais au stade.
Puis ça donne quoi en moyenne là, par semaine d'entraînement là, dans chacun des sports à peu près? Là?
Ben là, tu sais, c'est certain que dans les derniers mois avec les demi, j'ai mis un peu plus l'accent en course à pied. Fait que tu sais, on parle de peut-être une quinzaine d'heures de course, puis puis tu sais, natation peut-être 5-6 heures natation, 5-6 heures vélo.
On fait quand même 20-25 heures là, même. Ouais.
Ça c'est soft pour lui.
Ouais, ben
non, c'est mais vrai. Je pense qu'en termes de volume global, c'est peut-être une petite affaire de moins que ce que je fais normalement. Puis la raison principale, je pense que c'est juste parce que la course, je sens qu'au niveau fatigue, tu sens qu'il y a une réaction, inflammatoire après l'entraînement, tu le sens.
Ouais. Ça cause beaucoup plus que du vélo ou de la natte.
Fait quand, à cause de l'impact. Quand le volume augmente un peu à la course, je sens que j'ai moins de jambes sur le vélo, etc. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est ça. C'est globalement, le volume est quand même pas si mal.
Puis le vélo, c'est essentiellement du Zwift l'hiver ou?
Ouais, pour l'instant, ouais. Là, j'ai aussi mis la main sur un vélo de gravel. Mais là, tu sais, on a un hiver, il a commencé à neiger tard.
As-tu fait du gravel bike?
Ben là, je l'ai pas sorti beaucoup dans la neige. Parce que...
Mais ça te fait un bon workout, ça?
Ben, tu sais, tant qu'à faire une ride en endurance sur Zwift, tu peux rouler et avoir un bon. T'as une bonne sortie en endurance. T'sais, faire de l'intensité, c'est pas nécessairement pareil. Là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que dans la neige, c'est pas comme un fat bike. Là. C'est pas nécessairement non plus comme un vélo de montagne.
Ah, ok, c'est parce que ça que j'avais
les pneus, ouais. Les pneus sont un peu. Ouais. Tu sais, un gravel bike, c'est plus comme un. Un vélo de route, c'est un hybride, mettons, entre un vélo de route et un vélo de montagne. Fait que t'as des plus gros pneus sur un vélo de route. C'est le fun pour quand tu vas. Tu sais, dans l'Estrie, il y a beaucoup de chemins de gravier où là tu peux aller rouler, puis c'est quand même à la mode, là. Mais.
Sauf que dans la neige.
Dans la neige, c'est. Bah, j'ai essayé, là, mais tu sais, aussitôt qu'il y a de la glace, tu prends le bord.
C'est ça, j'allais dire, t'as pas peur de péter la gueule un peu, là.
Ouais, mais tu sais, il y a une couple d'années, je faisais beaucoup de vélo de montagne l'hiver, mais l'hiver aussi, c'est dur sur le vélo, là. Tu sais, si tu sors puis qu'il y a un peu de sel.
Tu
laves le vélo parce que sinon la chaîne va rouiller. Fait que tu sais, j'en fais un peu, mais surtout du Zwift.
Est-ce qu'on avait des dernières questions de nos spectateurs? On a pas mal répondu.
As-tu la liberté de voyager quand tu veux pour les compétitions? Puis est-ce que tu as le budget? Y a-tu quelque chose? Y a-tu un budget qui t'aide?
Une question par rapport au budget, le voyage,
la disponibilité,
disponibilité avec ton doctorat.
La disponibilité côté horaire, ça, je pense que c'est pas nécessairement un problème, dans le sens que aussi j'ai la chance d'être dans un département où
ils comprennent
c'est quoi le sport. Là. Ouais. Mais c'est certain que le triathlon, c'est beaucoup de voyagement, t'sais. C'est beaucoup de compétitions partout dans le monde, surtout à ce temps-ci de l'année. La saison commence dans 3 semaines, mais c'est en Australie, t'sais. Fait que si tu vas là, faut que tu sois là pendant un bout de temps, puis que tu compétitionnes, c'est beaucoup d'argent. Puis pour ça, je pense que dans les dernières années, ce qui m'a limité, c'est peut-être plus le côté budget. Puis côté budget, c'est que il a fallu que je compte puis que je décide où est-ce que j'allais en fonction du budget. Puis moi, j'ai pas j'ai pas nécessairement le financement de l'équipe nationale. Ou, parce qu'à un moment donné, l'équipe nationale, quand t'arrives à un certain âge, ils te disent, tu sais, si t'es pas top 8 ou top 5 dans le monde, tu passes plus sur le carding. Fait que,
Tu l'as reçu pendant un certain temps?
Ouais, t'sais, mais c'était une carte développement. Puis là, quand t'arrives autour de 26 ans...
C'est combien ça donne, une carte développement?
Une carte développement, c'est autour d'une 20 000 par année.
OK.
Mais tu sais, ça fait que ça couvre beaucoup de frais.
Ouais.
Mais tu sais, l'idée, c'est que ça couvre des frais, tu sais, mettons, ton appartement.
Ouais. Mais en triathlon, c'est cher aussi.
En triathlon, ouais. Tu sais, c'est... Ça couvre même pas tous les frais de dépenses que tu peux avoir en voyage. Ouais, puis ouais. Là, tu sais, on a quand même la chance d'avoir... Je pense qu'en triathlon, c'est le cas. Puis je pense qu'en athlétisme aussi, les fédérations provinciales aident beaucoup. Souvent, ils vont faire des projets où ils vont aider financièrement pour aller au championnat canadien, pour aller faire une course à l'extérieur. Le fédé national, de ce que je vois en triathlon, c'est pas la même chose.
Ouais.
Moi, c'est rare qu'on ait du support. J'ai fait beaucoup de Coupes du Monde, puis même des séries mondiales où on arrivait sur place, puis on était laissés à nous-mêmes. Là. C'était nous, puis... Fallait qu'on se débrouille. Fait que ce soit en Allemagne ou au Japon, il y avait juste moi, deux autres athlètes, mettons, puis il fallait qu'on gère l'horaire de piscine, aller à l'épicerie, toutes ces affaires-là. L'hébergement,
les repas, toute l'équipe.
Puis ça, c'était pris en charge majoritairement par nous autres. Okay. Fait que, je pense qu'on a quand même un système au Québec qui fait qu'on a beaucoup de bourses d'études, bourses de... Tu sais, la fondation, ben là, ça s'appelle la fondation Aléo, là. Puis c'est toutes ces affaires-là qui nous aident, qui fait qu'au fil des années, tu génères quand même une base sur laquelle tu peux aller puiser quand tu pars en voyage. Mais souvent, les gens sont surpris, là, quand je dis que je fais 7-8 voyages par année, puis qu'il y en a beaucoup là-dedans que c'est payé de ma poche. Mais
ouais,
c'est la réalité, là.
C'est clair.
Ouais. Ouais.
Puis en plus, il faut que tout que tu gères ce voyage-là. Ouais. Ton hébergement, les repas, continuer ton entraînement, la compétition, tout ça, c'est tout.
Ouais.
Ça me fait penser, on a reçu Rémi Leroux juste avant, puis lui, il fait les championnats de course en montagne, en sentier, puis lui, tout est pris en charge.
Ouais.
Toi, c'est complètement l'inverse.
Ouais. Ça varie d'une fédé à l'autre.
Ouais.
Oui, Nathalie?
As-tu quelques commandites pour te soutenir dans ça?
As-tu des commandites?
Ouais. Ben, nouveau commandite, je te dirais que... En triathlon, là où les gens vont commanditer, ben, où ils sont plus chauds à commanditer, c'est quand tu fais du longue distance, parce que je pense qu'ils connaissent plus ça.
Ironman.
Ouais. Moi, j'ai un contrat avec Argon 18 pour les vélos, mais c'est pas un contrat, mettons, il n'y a pas vraiment d'argent associé à ça, c'est qu'ils m'ont fourni un cadre. Moi, il a fallu que je monte les pièces puis tout.
Mais c'est un vélo qui vaut genre 10-15 000.
Ouais. C'est un cadre, de haut niveau, là, ouais. Parmi les meilleurs vélos au monde. Fait que ça, j'ai quand même la chance d'avoir ça. Mais pour le reste, je dirais que c'est vraiment le seul contrat que j'ai. Puis après ça, pour ce qui est partenaire financier, c'est par expérience, c'est très compliqué. Puis il faut que tu mettes beaucoup de temps et d'efforts pour aller les chercher, pour entretenir cette relation-là. Ouais. Tout.
Fait c'est que... vous, c'est les athlètes qui doivent aller chercher ou leur agent. Mais si tu veux avoir un agent, il faut beaucoup d'argent à faire sur toi.
T'sais. C'est pas nécessairement facile. Puis, par expérience, dans ma carrière aussi, avec les commanditaires, ce que j'ai réalisé, c'est que tu viens aussi à développer une relation de confiance ou une bonne relation avec quelqu'un qui... T'sais, moi, ça a été beaucoup avec Mathieu Giga qui était à New Balance. C'est devenu au fil des années quasiment un ami. T'sais. Puis là, ben il est rendu chez Kraft. Fait que là, t'sais, j'essaye un peu des produits Kraft. Pas le bar de peanuts, là, mais les vêtements. Oui. Non, mais le monde.
Il est rendu je me suis fait un chapeau au bar de peanuts.
Non, fait que tu sais, mais c'est ça. Puis même chose en vélo, tu sais. Ce qui m'a ouvert la porte chez Argon, c'est Dominique Fortin qui est quelqu'un qui a travaillé longtemps chez Argon, puis qui est vraiment quelqu'un dédié dans le monde du vélo, puis qui m'a aidé là-dedans. Puis. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de bénévolat là-dedans aussi. Là. Fait que. Puis au niveau des partenaires financiers, ben tu sais. Puis de plus en plus, là, ça marche avec les réseaux sociaux. Puis. Puis il y en a. Beaucoup
de followers.
Ouais, puis il y en a qui sont bons là-dedans. Puis il y en a d'autres qui. Moi, ça marche moins, je pense, avec ma personnalité, de tout mettre sur Facebook ou sur Instagram. Okay. Je suis quelqu'un de peut-être un peu plus réservé. Puis d'entretien, parce qu'en année aussi, il faut que tu fasses ça, mais que tu l'entretiennes, puis que tu...
C'est de la job. C'est une job à temps plein. C'est aussi, surprenamment de la job, ouais.
Donc moi, j'ai calculé qu'il fallait que je m'entraîne, que je mette mon temps à l'école, puis que tout l'aspect réseaux sociaux, c'était peut-être moins mon dada. Fait que...
Ouais. Ou tu t'engages quelqu'un qui te fait des choses. C'est ça. Si jamais quelqu'un qui s'en attend de faire des pauses pour Jérémy, cherche quelqu'un. Mais cool. Ben, merci beaucoup, Jérémy Briand, d'avoir accepté de repasser. Oui, merci. Merci, Nathalie. Merci à tous nos spectateurs
en direct. On est avec toi. Merci. On te souhaite le meilleur.
Ah, merci. Merci de m'avoir reçu. C'était génial.
Oui. Bonne fête, tu vas avoir 29 ans.
Ouais. Merci.
Ça approche de la trentaine, bientôt. Ouais, là, c'est plus facile, là, la trentaine. Là.
Ah, ça va.
Je... marathon.
Ouais. Merci, et sur ce, bonne course.
Bonne course, merci.
Merci. Ouais.